Chalim était compté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous reprenons notre série d'émissions sur l'histoire de Chali. La dernière fois, le propos était assez complexe parce que nous abordions aussi un moment d'une grande complexité. Et ce n'est pas toujours très facile, évidemment, de trop réduire parce qu'on risque évidemment de perdre le fil de ces grandes difficultés dans lesquelles s'est enfoncé progressivement notre célèbre abbé Jacques de Thérines, qui va jouer un rôle extrêmement important dans les relations entre les cisterciens, bien sûr, c'est un abbé cistercien, n'oublions pas, entre le roi de France, et c'est pas n'importe quel roi, c'est Philippe IV le Bel, qui est entouré de personnages assez sauvages, et le terme, il est très gentil pour les sauvages, assez violents. Je pense à Nogaret, qui sera toujours derrière les exactions que vont subir aussi bien les juifs que bien sûr les templiers. Alors les templiers, à propos de cet ordre, qui vous le savez est un ordre assez curieux, qui remplit à la fois une fonction religieuse, mais aussi une fonction militaire en quelque sorte. À propos des templiers, l'opinion de Jacques de Thérines va évoluer. Il faut dire aussi que les conditions dans lesquelles les templiers sont arrêtés, torturés, les conditions dans lesquelles ils se confessent, puis ensuite se rétractent, sont telles qu'il est difficile, quand on est dans l'actualité, d'avoir un jugement serein et en tous les cas d'avoir une véritable opinion. Quoi qu'il en soit, Jacques de Thérines a toujours insisté en disant qu'il pensait que cette histoire des Templiers, c'était avant tout une affaire religieuse et qu'elle devait être traitée par des religieux. Et particulièrement par le pape. Hein, les Templiers dépendaient directement du pape, comme les cisterciens d'ailleurs. Et pourtant, quelques années plus tôt, les bûchers avaient déjà été allumés dans certains diocèses et on avait évoqué, entre autres, les bûchers de Senlis. Cette histoire va se terminer très mal. Hein. Vous savez que celui qui est à la tête des Templiers, Jacques de Molay, va être condamné au bûcher le 18 mars 1314. Et lors de cette exécution, il va se passer un événement tout à fait extraordinaire, puisque Jacques de Molay va proférer, nous dit-on, on n'était pas là pour le savoir, il va proférer des menaces à la fois contre le pape, bon, qui d'ailleurs l'avait lâché, faut pas l'oublier, hein, deux années auparavant, des malédictions contre le roi Philippe IV le Bel et sa famille. Bien, c'était un colis groupé en quelque sorte, et fallait-il le croire? Alors, en tous les cas, un certain nombre d'historiens se sont attachés à cette malédiction et vont en faire des romans tout à fait assez étonnants. Je pense bien sûr au roi maudit que les auditeurs doivent connaître, hein, ces fameux rois maudits qui sont une suite romanesque aux événements, hein, pour ne pas croire tout ce qu'on peut lire, hein, sous la plume de Maurice Druon, qui n'était pas seul, hein, il faut être honnête aussi, hein, c'est Maurice de Druon et ses collaborateurs qui vont écrire les rois maudits. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote personnelle, puisqu'en 2005, José Dayan est venu tourner une série en 5 épisodes, si j'ai bonne mémoire, une série des rois maudits dans le décor de Chali, et les ruines étant transformées comme étant l'abbaye de Westminster en construction, par exemple. Et j'ai vu défiler un certain nombre d'acteurs tout à fait étonnants. Il ne faut pas oublier les trois Depardieu qui étaient là, hein, le père, le fils, et pas le Saint-Esprit, mais la fille. Jeanne Moreau. Alors, à propos de Jeanne Moreau, j'avoue mon admiration. On était en décembre et elle était en robe assez légère, hein, en tenue de cour assez légère, c'est moi qu'on puisse dire. Et elle attendait. Au cinéma, on attend. On attend plus qu'on ne tourne, faut pas l'oublier. Et donc elle attendait dehors et il neigeait. Je me dis, mais elle commençait à avoir quelques années. Hein, et je me dis, elle va pas survivre à ce qu'on lui fait subir. Mais non. Manifestement, elle mettait du cœur à l'ouvrage et en tous les cas une certaine chaleur intérieure pour pouvoir résister à la météo. Mais il y avait aussi une personne dont on entendra parler un peu plus tard, je pense à Julie Gayet, un acteur d'une très grande courtoisie, je tiens à le souligner, c'est Philippe Torreton, hein, qui joue un rôle essentiel, et puis d'autres qui nous ont quittés, comme Claude Rich, par exemple. Et même, il y avait Lynn Renault, quand même. Les décors étaient assez extraordinaires aussi. Ils étaient dus à la plume d'un illustrateur, auteur de BD, auteur de décors de cinéma et de films, qui s'appelle Philippe Druguet. Oui. Donc, ce tournage a été pour moi un événement tout à fait intéressant. Alors, revenons maintenant à la vraie histoire, en quelque sorte. Le deuxième problème, vous vous en souvenez peut-être, c'était: est-ce que les ordres réguliers comme les cisterciens avaient le droit à l'exemption? L'exemption, c'est-à-dire, avaient-ils le droit de ne pas payer l'impôt que réclamait le roi? C'était une tradition, n'oubliez pas, et le pape, normalement, il devait en être le garant. Et finalement, après maintes tergiversations, il va trancher en faveur de l'exemption. Sans doute reprenait-il les conclusions de Jacques de Thérines, qui lui avait donné quand même, comme on dirait de nos jours, pas mal de grains à moudre pour justifier, évidemment, le maintien de l'exemption. Bon, c'est sûr que l'appui fidèle des cisterciens au souverain pontife avait probablement influencé le pape, le Clément V, n'oubliez pas, hein, qui était aussi en danger face au pouvoir du roi de France et même de l'empereur. Ceci dit, il joue quand même un double jeu, puisque le 22 mars 1312, il avait procédé à la dissolution de l'ordre du Temple. Non ? Et quelque temps après, il va proposer que les biens des Templiers soient offerts aux hospitaliers. Cela dit, si les hospitaliers vont reprendre en partie les biens des Templiers, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Et le trésor des Templiers, ce n'est pas la peine de trop le chercher en tous les cas, a déjà été dépensé depuis plusieurs siècles. La deuxième action tout à fait importante que va mener Jacques de Thérines quand il devient abbé, enfin, quand il revient, là, en l'occurrence, vu la date, quand il revient à Abbé, c'était d'essayer de résoudre les problèmes économiques que rencontrait évidemment l'ordre cistercien en général. Alors, il arrive, je l'ai dit, précédé d'une réputation quand même une réputation assez curieuse, puisque d'un côté, on va le féliciter pour avoir défendu l'exemption de l'ordre cistercien, donc ça fait faire des sacrées économies. Mais n'oubliez pas qu'en faisant ça, il s'était attiré aussi l'inimitié des évêques et des archevêques. Hein. Je pense à un certain Guillaume de Brosse, hein. En particulier, on aura l'occasion d'en reparler dans les affaires qui vont l'opposer avec un certain Pierre de Cuinières. Oui, c'est pas un inconnu. Hein. Cuinières, vous connaissez peut-être le village dans l'Oise. Hein. Il est situé au sud de Saint-Just et au nord de Clermont. Bon, on n'y va pas forcément tous les jours, il n'est pas sur une grande voie traditionnelle. Mais en tous les cas, c'était un seigneur qui avait un certain nombre de domaines et de châteaux dans l'environnement et qui va toute sa vie, on va dire, exécuter les ordres du roi. Il va donc se retrouver lui aussi en opposition, on va le voir, avec les évêques. On pose souvent la question de savoir combien y avait-il de moines à Chaly. Alors à cette époque, on a quelques renseignements qui pourrait nous faire estimer, vous voyez que je suis très prudent, qu'il y a environ une centaine de moines de cœur. Alors, quant aux moines converts, hein, je vous rappelle, dans l'ordre cistercien, les moines de cœur qui sont issus des familles seigneuriales, et puis de l'autre côté, il y a les converts qui travaillent, hein, les conversus, ceux qui sont convertis, et qui travaillent en général dans ce qu'on appelle les granges, c'est-à-dire les fermes qui sont extérieures au domaine lui-même. Alors, j'ai un chiffre qui manque un peu de précision, parce qu'il va aller entre 200 et 400 quant au nombre de converts. Bref, le chapitre général qui, vous le savez, gouverne l'ordre des cisterciens, décide à un moment donné, probablement sous la pression du roi, de faire vérifier les comptes financiers de toutes les abbayes. Alors, on dit qu'on fait ça pour voir s'il n'y a pas d'abbayes qui s'enrichissent un peu trop, parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les malheurs, n'oubliez pas, hein. Et il faut donc se méfier de l'argent au plus haut point. Malheureusement, la confirmation des possessions de Shelley depuis presque un siècle va être supervisée par un personnage lui aussi sympathique que Nogaret, le tortionnaire. Ce personnage s'appelle Pierre de Latilly. Et il va effectuer ses contrôles au nom du roi, moyennant une somme tout à fait considérable de 200 livres. C'est-à-dire que les moines vont être obligés de payer cette vérification. La somme de 200 livres, ce qui est très important, si vous voulez, c'est à peu près le salaire annuel d'un administrateur royal, hein, c'est-à-dire d'un des plus hauts fonctionnaires, pour un travail d'une semaine ou deux. Hein, le travail lui a été préparé bien avant. Alors, nonobstant évidemment ces difficultés, Jacques de Thérines va continuer à essayer d'épurer les comptes de l'abbaye. Et parmi les différents actes, on peut citer une charte de 1313, concernant une histoire de rente et de mesure de grain n'était pas tout à fait en accord avec les chartes, et ça concernait justement le fameux Pierre de Cunières et sa femme. Ce Pierre de Cunières, je m'arrête une seconde sur ce personnage qui est un Isarien quand même, hein, notre département. Il était membre du Conseil royal, puis il va devenir avocat du roi au Parlement de Paris. Et il n'a cessé de plaider pour les droits du roi contre les ecclésiastiques. Et donc, avec une certaine virulence, il va s'opposer à Guillaume Desbrosses, dont je parlais tout à l'heure, qui, lui, défendait les droits ecclésiastiques. Et ce fameux Guillaume Desbrosses va devenir archevêque de Sens. Il va y avoir des combats, non pas physiques, mais en tous les cas pas loin, qui vont opposer ces deux personnages. En gros, quand même, c'est le clergé régulier contre le roi de France. Hein, voilà ce que ça veut dire. Et finalement, le roi, très curieusement, va abandonner son conseiller et va choisir de se rabiboucher, en quelque sorte, avec les autorités ecclésiastiques. Mais Guillaume Desbrosses ne va pas être satisfait pour autant. Et on va assister à la prolifération de têtes de Cunières. On l'appelle Cunières, mais on l'appelle Cogneau. Et dans les églises qui entourent Sens, Auxerre, il y a énormément de têtes grimaçantes et à l'air stupide à l'effigie du fameux Cunières. Et je suis allé, bien sûr, je n'ai pas pu résister en descendant en Bourgogne, je suis allé vérifier que dans la cathédrale de Sens, il y avait bien une tête de ce fameux Cogneau. Eh oui, elle est toujours. Hein. Donc les touristes qui veulent aller voir cette cathédrale qui est magnifique, hein, une des premières cathédrales gothiques, je vous rappelle, avec Noyon, soyons un peu chauvins, eh bien pourront chercher la tête de Cogneau, ou de Cunières, appelons-le par son nom. Alors, je continue mon histoire d'une façon chronologique. Ça va commencer par des décès. Hein. Le pape Clément V va mourir, donc on est en avril 1314. Rappelez-vous la prédiction de Jacques de Molay par rapport au pape. Bon, on reviendra sur ce problème tout à l'heure. Donc, ensuite, on va voir que c'est le tour du roi de France. Et à ce moment-là, c'est son fils, hein, Louis X le Hutin, qui va succéder à son père et qui va poursuivre la guerre en Flandre, qui posait déjà pas mal de problèmes. Mais, la même année se pose le problème de l'héritier. Parce que Louis X le Hutin avait épousé Marguerite de Bourgogne, mais cette dernière avait été condamné à la suite de, on pourrait appeler ça de nos jours, de balai rose qui avait eu lieu. Et le roi de France, évidemment furieux, avait fait exécuter les amants et fait emprisonner ses belles-filles, dont Marguerite de Bourgogne, qui, dit-on, va mourir d'hypothermie à Château-Gaillard. Alors, est-ce qu'on ne l'a pas un petit peu aidé? Bon, on était là aussi. Les témoignages nous manquent. Donc, puisqu'il y a des mortes, eh bien Louis va pouvoir épouser une autre personne, n'est-ce pas, une autre future reine, en la personne de Clémence de Hongrie, en 1315. Nous allons retrouver certains personnages qu'on a déjà évoqués. Je pense à l'évêque Pierre de Latilly, connu pour ses exactions. Hein. Je vous rappelle celle qu'il avait commise à Chali quand il avait fait une espèce de bilan financier, mais en se faisant rétribuer d'une façon scandaleuse. Eh bien, à son tour, il va se retrouver traduit en justice. Mais heureusement pour lui, ça sera devant une justice religieuse. Au passage, on va l'accuser d'avoir empoisonné Philippe le Bel, le roi. Hein. Bah, finalement, les choses se passent assez bien. Il va être relaxé. Mais vous voyez que les événements se bousculent, mais pas seulement pour les grands du royaume, mais aussi pour le peuple. Hein. Par exemple, le 3 juillet 1315, les serfs qui dépendaient, les esclaves en gros, qui dépendaient du roi sont affranchis, attendez, pas n'importe comment, moyennant finance. Hein. Bien, donc la guerre a repris malheureusement, et elle est alimentée entre autres par les taxes payées par les communautés religieuses. Mais heureusement peut-être pour ces communautés, la météo est détestable ces années-là. Et donc les pluies diluviennes qui vont s'abattre sur le nord de la France vont être à ce point détestables que pendant 2 ans, le terrain de jeu est inondé et on ne peut plus se battre. Hein, vous vous rendez compte? Donc c'est ainsi que se termine en partie, momentanément, je dirais, cette guerre de Flandre qui avait coûté très cher aux différentes communautés religieuses. Autre action de notre célèbre maintenant Jacques de Thérines, la réforme financière, c'est peut-être la plus importante, et encore une fois, on a pas de chance, c'est sûrement la plus complexe. On a l'habitude de dire habituellement que ces grandes abbayes qui étaient fondées sur l'activité agricole, hein, à travers toute l'exploitation des granges, ces grandes abbayes, finalement, avaient été petit à petit abandonnées parce qu'on ne trouvait plus de convers suffisamment et qu'on avait donc laissé tomber le faire-valoir direct, c'est-à-dire le fait de faire cultiver les terres par les moines convers, et qu'on l'avait substitué au fermage, c'est-à-dire qu'on loue à partir de là les terres. Eh bien, il me semble que c'est allé un peu vite. D'une part, parce que c'est pas tout à fait vrai de dire que la démographie s'effondre, c'est même le contraire, hein, à tel point qu'on assiste dans cette période-là à de nombreux défrichements, ce qu'on appelle les essarts, entre autres, quand on coupe les bois, hein, pour pouvoir obtenir des terres cultivables. Donc, il y a sûrement d'autres raisons, bien entendu, qui vont participer de ces mutations. Hein. Donc à Chali, d'abord, on va essayer de regrouper les terres, ce qu'on appellerait beaucoup plus tard, au XXe siècle, le remembrement. Hein. Eh bien, à Chali, Jacques de Thérines va initier ce remembrement. Mais bien sûr, il lui faudra pour cela, d'une part, faire confirmer ses possessions par le roi, comme par les barons locaux, hein, par les voisins en quelque sorte. Et c'est grâce, évidemment, au soutien de la cour qu'il va pouvoir négocier comme ça directement avec les différents chevaliers. Il va y arriver. Il a un pouvoir véritablement, je l'appellerais diplomatique, de conciliation tout à fait remarquable. On a quelques exemples. On a la difficulté, par exemple, avec un chevalier de Francière. Alors, on n'est pas loin non plus. Hein, qui portait objection à propos d'un échange entre l'abbaye de Chali et l'abbaye de Saint-Symphorien de Beauvais. Enfin bref, les choses étaient assez complexes. Jacques invita le chevalier pour essayer de trouver un arrangement, même s'il jugeait que les chevaliers n'étaient que des rapaces, hein, je vous le rappelle quand même. Mais finalement, Jacques de Thérines va l'emporter en quelque sorte, puisque Stage va retirer sa plainte. De la même façon, en 1316, Jacques va trouver un accord avec le maire de Compiègne. Oui, parce que n'oublions pas que l'abbé de Chali avait également un hôtel, avait des droits, avait des maisons, avait des propriétés, hein, à Compiègne. N'oubliez pas non plus qu'à cette époque, évidemment, les municipalités, on peut les appeler comme telles, les communes, si vous voulez, eh bien, faisaient aussi revendication, elles cherchaient de l'argent partout, elles n'étaient pas les seules, et à ce moment-là, évidemment, remettaient en cause un certain nombre de droits qui avaient été acquis par l'abbaye. Par exemple, les droits sur le marché au grain, sans avoir non plus à payer les droits d'entrée, hein. L'abbaye avait le droit aussi d'utiliser les mesures de Compiègne. Oh, Les mesures sont toutes différentes selon l'endroit où vous trouvez, selon il s'agit de seigle, de blé, enfin bref, je rentre pas dans ces difficultés-là. Finalement, ces relations, qui étaient quand même assez anciennes, vont demeurer relativement courtoises. Bien que, évidemment, compte tenu de la disette, une certaine opposition va perdurer entre la ville et l'abbaye. C'est vrai aussi pour ce qui concerne les droits de stockage dans les halles. Finalement, Jacques va persuader la commune d'accorder aux moines le droit d'établir leur propre halle et de vendre librement dans la ville ou dans les environs. C'était quand même une victoire tout à fait considérable. Ouais. C'est-à-dire qu'il obtenait en gros les mêmes droits que les moines avaient obtenus à Senlis, à Beauvais ou encore à Paris. Le tout va recevoir l'agrément du Châtelet. À Senlis, l'abbaye avait également de nombreux droits par l'intermédiaire de son hôtel du Petit Chaly. On peut le connaître encore, puisque quand vous êtes devant le portail occidental de la cathédrale, derrière vous se trouve la rue du Petit Chaly, qu'on peut toujours emprunter. Et l'hôtel, qui se trouve un petit peu au fond à gauche, évidemment, a subi pas mal de modifications. Et on ne peut plus reconnaître véritablement l'hôtel médiéval. On a eu la chance, il y a une 25 ans, lors de travaux qui ont été effectués dans cette maison, de récupérer un ensemble de pavés cisterciens qui avaient été fabriqués dans la grange de Comelles, et selon la méthode traditionnelle que l'on peut dater donc du XIIIe, XIVe siècle. À Beauvais, l'hôtel va être reconstruit un peu plus tard, et on continue bien sûr à entretenir tous ces lieux extrêmement importants qui sont nécessaires pour écouler les productions des différentes granges de chêne. Alors, on voit que le rôle financier de Jacques est tout à fait considérable. Mais il n'y a pas que ça. Parce que, de nouveau, on va retrouver un problème qu'on connaît, c'est le problème de l'exemption qui, de nouveau, est contesté. Alors, les rois se portaient très mal à cette époque. Ils avaient des problèmes de santé, puisque Louis X, à peine 2 ans après son couronnement, meurt en 1316. Se pose encore le problème, qu'est-ce qu'on va faire de l'héritier de Clémence qui vient de mourir. Enfin bref, finalement c'est Philippe le Long qui devient régent, puis roi en 1317. Et sans qu'on invoque la loi salique à propos de la fille, parce que ce n'était pas à Philippe V le Long de devenir le roi, c'était à la fille normalement. On aura l'occasion de reparler de la loi salique qui est une pure invention, c'est de la magouille, il ne faut pas dire autrement, pour justifier évidemment ça nous concerne, l'accès à la couronne d'un certain Philippe VI de Valois. Bien. Au passage, on donne à Philippe le surnom de débonnaire. On l'appelle le Long, vous avez compris pourquoi, il devait être de grande taille, au moins par rapport à la taille de l'époque. Quant à débonnaire, il y en avait déjà eu des rois qui s'appelaient ainsi, mais là, il faut le comprendre dans le sens, eh bien brave, quoi. Voilà. Il confirme dans un premier temps les concessions. Ce sera le cas d'ailleurs à Chaly. Il faut dire que Chaly n'avait pas reçu grand-chose de Philippe IV le Bel. Il n'avait pas grand-chose à confirmer. Donc, il va quand même confirmer les chartes antérieures jusqu'à Louis VI, le fondateur de l'abbaye. Et en 1318, c'est à ce moment-là que Jacques va faire preuve d'une autre compétence, c'est celui de trésorier. Il va projeter un livre qui consigne l'ensemble des propriétés, il va inscrire les chartes, il va mettre en place ce qu'on appelle nous le chartrier, en quelque sorte, le cartulaire. On y voit donc un souci permanent de préserver les privilèges des ordres exemptés, et surtout, et là où il a eu un rôle important, c'est d'organiser rationnellement la vie économique de l'abbaye. Alors, je passe sur les détails jusqu'en 1318, puisque c'est l'année même où Jacques de Thérines va quitter Chaly pour devenir l'abbé de la mère de Chaly, qui, comme vous le savez, est l'abbaye de Pontigny, donc dans l'Yonne. Pour résumer, disons que l'année 1314 avait été pour tout le monde l'anus horribilis, comme on l'a dit à propos de la reine d'Angleterre au moment des difficultés récentes. Mais en tous les cas, pour la couronne de France, ce le fut, mais aussi pour toute la société française. En 1316, un nouveau cardinal est élu, et encore un Français, il est né à Cahors. Et il prend le nom de Jean XXII. Il va rester sur le trône de Saint-Pierre jusqu'en 1334. C'est donc un pontificat assez long. N'oublions pas que c'est un érudit, très, très connaisseur en droit canon romain, très traditionnaliste, on dirait maintenant. En tous les cas, assez soupçonneux quant à tout changement par rapport à la dévotion. Hein, c'est un réactionnaire, on dirait, de nos jours. Tout ce qui est un peu nouveau, il n'en veut pas, en quelque sorte. Cela dit, il met en place, lui aussi, une administration fiscale de premier ordre. Hein. Et surtout, c'est, n'oublions pas, l'évêque de Rome. Et il va jalousement défendre, évidemment, son siège, non seulement contre l'hérésie, mais aussi contre les volontés des pouvoirs impériaux ou royaux. Avec ce changement de pape, bah, tout recommence. Tout reste à faire, en quelque sorte. Car le nouveau pontife remet en cause l'exemption. Et puis reparle également des Templiers demandant quelque part des comptes à Jacques de Thérines. Alors, on va voir donc ce que redemande le pape. Et puis, on va voir quelle sera la réponse de Jacques de Thérines.